tous, c'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Albert Agou, Tom Villard, Daniel Morin, Frédéric Siliste, Richard Lornac, Richard et nos invités, Céline Salette et Nicolas Tilleul. Bonjour à tous les deux, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation.
Ah, ça, le 5 avril, on est chaud.
Ah oui, le 5 avril, on est toujours un petit peu chaud. Vous venez nous présenter Corporate, film que vous avez réalisé, Nicolas Tilleul. C'est votre premier film, premier long métrage, et dans lequel, Céline, vous avez le rôle principal. C'est un très très beau film, on l'a beaucoup aimé ici. Bravo déjà, ça commence bien.
Merci, super.
Il y a parti la promo. Hein.
Ouais, ça commence bien. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est une bande originale un peu spéciale. Nagui n'est pas là, il est en vacances. Il m'a laissé les commandes, il m'a aussi laissé l'équipe. Notamment Tom Villa.
Bonjour Villa, déjà.
Bonjour. Mais je t'ai dit bonjour.
On se mettra en grève à tout moment. Hein.
Ouais. Alors généralement, Tom Villa, vous ne comprenez pas pourquoi on invite nos invités, tout simplement.
Vous n'allez pas vous y mettre aussi, ça devient désagréable.
Non, mais moi je crois au miracle. Alors expliquez-nous pourquoi Céline Salette et Nicolas Tilleul sont nos invités aujourd'hui.
Vous êtes très croyante ou pas?
Parce que j'ai la foi.
Alors voilà, ils sont avec nous ce matin afin de faire un point global sur l'évaluation personnelle du corporatisme mondialisé, selon les vecteurs abordés dans ce contexte de mobilité unificateur du service public audiovisuel. Et, voilà, parce qu'on est une radio de gauche qui est là pour dénoncer les dérives du capitalisme sauvage et de l'ultralibéralisme en entreprise. Très joli. Votre nouvelle Rolex d'ailleurs, Laïla. Ouais. Donc voilà, par rapport à la conjoncture actuelle, non, Céline Salette, Nicolas Tilleul, vous êtes nos invités ce matin et vous venez nous parler du film Corporate, qui traite du suicide en entreprise et non du suicide de l'entreprise. Hein, c'est pas un film sur les méthodes de Delphine Ernotte. Alors le pitch de ne réagissez pas, Laïla.
Sulfureux cette émission, c'est sulfureux.
Le pitch de Corporate. Donc Céline, vous jouez le rôle d'Emily. C'est une gestionnaire des ressources humaines dans une grande entreprise. Voilà, gestionnaire des ressources humaines, c'est l'autre mot pour dire. Qui a y enculé? C'est toi, Richard?
Oh.
Oh non, quand même pas. Non, c'est vireur professionnel. Voilà, mais c'est fou comme DRH, ça sonne tout de suite mal. Vraiment, il y a des. Et en même temps, est-ce qu'il y a des gosses qui rêvent de devenir responsables des ressources humaines, à part les petits-enfants de Pierre Gattaz? Je veux dire, il n'y a pas de. Non, mais jamais tu verras un mot me dire, ouais, j'hésite entre astronaute, pompier ou vireur professionnel. Oui, c'est. Alors, le monde dans l'entreprise, c'est très particulier. C'est un peu un mélange de la haine, Scarface et de l'exorciste réuni. C'est les favelas de Rio à côté, c'est le monde des Teletubbies, la drogue au moins, évidemment. Et alors, et donc, Emily, votre personnage, rend compte que les ressources humaines sont humaines au moment où elle s'écrase dans la cour au pied de son bureau. Et c'est une excellente problématique. Que fait-on quand on a un collègue qui se jette de la fenêtre de son bureau? À part appeler les pompiers, évidemment. Du coup, ça commence à parler entre les salariés. Est-ce qu'on l'a assez considéré? Est-ce que c'était finalement un mec sympa? Il avait quand même oublié de mettre 10 euros dans la cagnotte pour le départ en retraite de Michel. Non, mais c'est vrai, comment on peut faire la part des choses entre un connard et un dépressif? C'est pas évident à savoir. Déjà, est-ce que les dépressions dans les entreprises ne viennent pas des cantines d'entreprises? Parce que vous savez que ça.
Daniel pourrait t'en parler. Non,
c'est un drame parce que vous savez que en vrai personne ne mange de céleri rémoulade dans la vraie vie. Hein. C'est non mais voilà, on a tout. Tu sais, on est tous à la queue leu-leu avec notre petit plateau à regarder ce que prend l'autre. Ah, t'as pris donc salade de pois chiche et chicken carné, très bien. Non, je m'en fous. Non, juste que on est en open space et si on ouvre la fenêtre, ça sera pas pour la vue. Voilà. Donc non mais le plus choquant dans votre personnage, Céline, c'est pas sa dureté ni son esprit corporate. J'irais, c'est son hygiène.
Ouais.
Ah bah, Émilie, elle se lave façon nuit debout, une lingette et c'est reparti, hein, un coup de déo et en avant Guingamp. En fait, si tout le monde la déteste dans l'entreprise, c'est pas pour ses méthodes, c'est pour ses odeurs. Hein. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, Leïla, mais si vous aimez les produits audiovisuels qualitatifs à vocation cinématographique en espace clos tamisé, et bah Corporate est fait pour vous.
France Inter. La bande originale.
Merci Tom, c'est ça, mais c'est pas vraiment ça. Corporate, c'est une plongée dans un monde cruel, celui de l'entreprise, une critique aussi des méthodes de management. C'est une sorte d'état des lieux assez sidérant, en fait, de cet univers, de ce monde du travail. Je dirais pas, Nicolas Tilleul, qu'il s'agit vraiment du suicide dans l'entreprise. Alors l'histoire, pour la replacer, c'est celle d'un responsable des ressources humaines, d'une gestionnaire, c'est vous, Céline Salette. Vous êtes chargée de faire proprement le sale boulot. En gros, c'est un peu ça l'idée. Vous êtes une femme enfermée aussi dans un système et vous essayez d'une certaine façon de redevenir humaine. Est-ce qu'on n'est pas loin de ça, Nicolas Tilleul?
Oui, c'est pour ça que ça ne se résume pas au sujet, ça ne traite pas du sujet le suicide en entreprise. Ça décortique les rouages d'un certain système de management qui est le management par la terreur. Mais avant tout, effectivement, c'est l'histoire d'Émilie, de ce personnage, et effectivement comment, alors qu'on la découvre dans sa fonction, dans son costume, une killeuse, comment, à la faveur de ce drame, elle se réhumanise progressivement, et surtout comment elle décide de prendre ses responsabilités.
Alors vous donnez le ton tout de suite dans le film, avant même de voir une première image, il y a un carton qui indique « Les personnages de ce film sont fictifs, mais les méthodes de management sont réelles ». Pourquoi, Nicolas Sciol, vous êtes emparé de ce sujet-là ?
Ce carton, il dit un peu l'ambition du film. C'était sur un sujet très compliqué d'être le plus juste, le plus précis possible, et de, voilà, d'être ancré dans le réel, mais avant tout de faire un film de fiction. Mm-hmm. Voilà, donc toutes les méthodes qui sont dans le film, elles sont inspirées de systèmes de management sur lesquels on a enquêté. Évidemment, France Télécom, mais des tas d'autres entreprises, ça ne se résume
pas. Radio France.
beaucoup de services publics qui sont...
Je crois avoir lu que le point de départ, c'est ça, c'est France Télécom, c'est la déclaration du PDG de l'époque qui parle d'une mode du suicide.
Voilà, il avait eu cette déclaration malheureuse. Ouais, déclaration malheureuse qui disait...
C'est ignoble.
Plus que pas forcément constater qu'aujourd'hui, ça s'est calmé. Donc, non,
parce qu'à l'hôpital, c'est...
Non, à l'hôpital, à la SNCF.
Récemment, à la SNCF.
Nous, c'est vrai que
c'est un voyageur parce qu'un train était en retard. Il s'est jeté sous le train.
Merci, Albert, s'il te plaît.
Non, un train était à l'heure. C'est pour ça.
On a un quota de bêtises à dire toutes les minutes. Donc, c'est la mer qui s'y colle.
On aurait pu faire une comédie trash, on l'a bien vu. Mais on est resté sérieux. Et effectivement, c'est cette déclaration-là qui nous avait choqués. Parce qu'on y voyait vraiment une déresponsabilisation totale des dirigeants. Et ils renvoyaient comme ça une sorte de fatalité. C'est la faute du système. Mm-hmm. Mais nous, on s'est posé la question de la responsabilité justement des individus. De se dire, en fait, derrière ces systèmes de management, il y a des gens qui décident de les mettre en place. Et après, surtout, il y a des gens qui les mettent en œuvre au quotidien.
Et pour rebondir là-dessus, ouais, nous, en fait, le point de départ du personnage d'Émilie, c'est pas tellement le fait que... elle incarne à minima ce système de management. On a choisi de partir du principe que d'une certaine façon, ce personnage était en jubilation de son pouvoir, de son rapport du rapport de domination qu'elle a avec les autres, et que non seulement ça ne lui pose pas de problème, mais en plus elle en jouit d'une certaine façon, c'est-à-dire on parle pas de contrition, quoi.
Oui, d'ailleurs, ils sont.
On parle de quelqu'un qui n'a aucun problème avec incarner le pouvoir, la domination, la force, la puissance, qui a un rapport à l'argent, qui est heureuse de gagner plein d'argent, de s'habiller très bien, d'avoir une grosse voiture. Et pour l'instant, elle s'arrête là. Alors c'est vrai que elle pue. C'est vrai que.
Ou elle a peur de puer.
Oui, elle est quand même très rigide sur absolument tout. Elle contrôle absolument tout.
Absolument. Elle cloisonne. Sa famille, son travail, tout ça, c'est quand même un personnage qui est tout à fait masqué et en fuite d'une certaine façon. Même. Elle joue à des jeux sur son téléphone. Enfin, il y a une espèce comme ça elle est infantile, quoi. Enfin, il y a une espèce de rapport infantile à ça. Mais,
Et elle, son métier, vraiment, c'est de pousser des employés à démissionner, hein, pour le dire concrètement. Elle met en place, elle a un peu à l'origine même de cette stratégie. Ouais, comment est-ce qu'on pousse psychologiquement à faire en sorte qu'un salarié dont on veut se débarrasser se dise lui-même inutile à l'entreprise?
C'est presque un premier suicide de pousser, avec toute la réserve, mais de pousser quelqu'un justement à démissionner vu le contexte actuel.
Bah bien sûr, c'est ce que disait Nicolas. Dans les premiers temps, par exemple, les inspecteurs du travail qui ont enquêté sur ce genre d'événement avaient du mal à faire le lien entre un suicide et les conditions de travail. Ouais. Ça n'existait pas avant. Avant que ça soit décortiqué, avant qu'on découvre tous les outils manageriaux qui poussent les gens à... Parce qu'avant, ce que tu disais, c'était plus du harcèlement duel. Mmh. Il y avait des rapports duels, un supérieur harcelait un subalterne, ouais, et donc c'était...
C'était personnalisé.
Voilà, c'était personnalisé. Après, c'est devenu un peu plus technique, quoi. Et on le voit très clairement dans le film, hein, toute la séquence qui dit « Votre maman a Alzheimer, c'est compliqué pour vous d'aller travailler à 200 km », on comprend, mais on ne peut pas choisir à votre place. Ouais. Ça, c'est vraiment des méthodes qui ont existé, qui existent, enfin, je veux dire, qui existent encore. C'est sidérant, carrément.
Et ça, vous avez enquêté là-dessus, Nicolas Sciol, parce que je crois savoir qu'il y a une part familiale dans l'histoire, puisque...
Oui, mon père
contrairement à ce que tu penses, tu vois, Tom, on peut avoir envie de s'occuper des ressources humaines. C'est le cas du père de Nicolas.
Bonne émission à tous.
Jolie boulette. Déjà, tu dis pardon, monsieur.
Pardon, monsieur.
Non, c'est vrai, il est consultant en ressources humaines, il travaille encore.
Ah, consultant, c'est pas mal.
Voilà. et donc, moi, je me suis intéressé au boulot de mon père. Donc, c'est des questions dont on a beaucoup discuté. Mais lui, il était, parce que ça existe, plutôt l'artisan d'une vision humaniste des rapports en entreprise.
Oui. Alors, vous avez choisi une femme. Et face à elle, une autre femme, l'inspectrice du travail, incarnée par Violaine Fumeau, qui est vraiment aussi géniale dans ce film. Deux féminités très très différentes, à la fois très autoritaires dans leurs métiers respectifs, mais l'une est peut-être plus douée d'humanité que l'autre. Pourquoi des femmes ?
Bah, ça m'intéressait, moi, d'en profiter pour...
toucher un peu les seins des actrices. Non, regarde.
Bravo, c'est ah, vous êtes preneur de son aussi.
Je sais pas, j'ai cru comprendre que c'était
un petit geste avec les mains.
Faire des blagues.
Non, c'était l'occasion d'interroger la place et le rôle des femmes dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise. Et,
qu'est-ce qu'elles ont de différent, ces femmes, dans le monde du travail, d'après vous ?
Moi, ce qui m'intéressait, c'est que je pense qu'elles sont peut-être plus douées que nous pour se remettre en question. Je ne sais pas si un homme ferait le parcours que fait Émilie dans ce film. Je suis un peu démagogique.
Oui, non, mais c'est bien, il en faut.
Voilà.
Et on a beaucoup d'auditrices femmes,
c'est
pour ça.
Voilà,
c'est ça.
C'est Leïla qui présente et tout ça.
Ouais, c'est ça.
Vous avez tout compris.
C'est 26% moins cher.
C'est vrai, en plus, c'est beaucoup moins cher. C'est une bonne stratégie. Et dans cet affrontement de femmes, ce qui est intéressant dans votre personnage, vous, Céline, c'est que quand vous commencez à réaliser l'ampleur des dégâts, votre première motivation, c'est pas tant de faire le bien que de sauver votre carrière.
Oui, voilà. En fait, c'est-à-dire, c'est un personnage qui met du temps à comprendre ce qui lui arrive. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, la situation en face de laquelle elle est... Ou en tout cas, ça prend beaucoup de temps à résonner en elle. Au début, c'est carrément... bon, c'est un fait, quoi. Le type a sauté... Elle est étanche, quoi. Hein. Mm-hmm. Elle est quand même étanche au début. Et c'est vrai que c'est par réflexe de survie qu'elle bouge, d'abord.
Et vous avez voulu traduire ça aussi dans la façon de filmer l'entreprise. Je trouve que c'est à la limite du carcéral.
Oui, c'est l'enfermement. Mais...
Nicolas Sial, ouais.
Oui, c'est l'enfermement. Surtout, on ne voulait pas être schématique et on ne voulait pas juger. Ce n'est pas une mauvaise personne qui décide, à la faveur d'un drame comme ça, de se retourner et d'aller vers le bien. On n'est pas du tout dans ces, j'espère, dans ce registre-là. Donc, effectivement, son premier réflexe, c'est de sauver sa peau. Et ensuite, ce qu'on raconte, c'est comment ce personnage qui s'était complètement coupé de ses émotions, de ses ressentis, de ses valeurs, pour faire corps avec les valeurs de l'entreprise, d'où ce titre de corporate, c'est nous. Et comment elle se reconnecte progressivement avec ses émotions, avec ses ressentis, et effectivement la rencontre avec l'inspectrice du travail, la forme de ce qui est d'abord un duel, puis progressivement d'une collaboration.
Mmh. Une équipe. Ouais.
L'aide, voilà, elle finit par former une équipe. L'aide, voilà, à évoluer et puis à s'inscrire en rupture avec elle-même et à dire je veux plus être en fait celle que j'ai été.
Et alors, il y a un personnage fort aussi qui est important, on n'a pas parlé. J'ai pas encore évoqué tout le casting du film, c'est un très beau casting. C'est Lambert Wilson qui incarne le patron de votre entreprise. Non, il appréciera. Et il incarne, lui, un personnage très fort, très en place, parce que finalement, la vraie question, c'est celle de la responsabilité. Il ne veut surtout pas en entendre parler.
Absolument. Il est là encore. On voulait pas être caricatural. On voulait pas en faire une figure de grand méchant. C'est surtout celui qui incarne ce dont on parlait au début, cette posture de déni,
oui.
Avec le plus de violence. Voilà. Et puis au-dessus de lui, il y a encore des échelons de responsabilité. On s'arrête sur lui. Et puis on remonte comme ça une série de fusibles qui sautent les uns après les autres. Et à un moment, il faut s'arrêter. Mais voilà, donc c'était surtout, Lambert a cette ambivalence-là, il a cette élégance aussi, donc il est assez charismatique. Moi j'étais très heureux de pouvoir travailler avec lui sur ce rôle.
Ces personnages qui sont dans le déni, dans la fuite, dans l'évitement, mais ils sont plus immondes et plus salauds que des grands méchants, justement. Parce qu'un grand méchant, il est identifiable, on peut l'affronter directement, c'est presque de la caricature. Mais dans cet univers, ce qui me frappe, c'est justement cette esquive et cette saloperie feutrée qui est infiniment plus criminelle et plus, dans le fond, plus violente.
C'est vrai qu'avec Nagui, on sait à qui on va faire tout de suite.
On l'embrasse.
Oui, c'est le déni, c'est la lâcheté. Mais la lâcheté, voilà, c'est la humaine. Lâcheté.
Mais ça vient de loin. Hein, parce qu'en fait, je pense que le problème, ce que le film montre, c'est que l'être humain devient complètement abstrait.
Ouais.
C'est-à-dire que dans les méthodes d'amélioration ou d'optimisation de l'entreprise, l'être humain ne rentre plus du tout. C'est-à-dire, une journée de travail, qu'est-ce que ça veut dire physiquement, du temps passé avec sa famille, tout ça. Même là, dernièrement, j'ai vu que les programmes des candidats avaient été notés par des think tanks libéraux, et ils disent ce programme est le meilleur, mais on ne parle jamais de ce que ça représenterait
pour les ouvriers qui travaillent dans ces boîtes de travailler 3 heures de plus, de payer une nounou, rien. C'est vraiment c'est,
des, voilà, chiffres.
Des chiffres. Des chiffres, oui, c'est la comptabilité par excellence. Alors, Albert Algou, je pense que quand vous avez appris que nous invitions Céline Salette et Nicolas Sillol pour
vous,
Corporate, qui sort aujourd'hui en salle,
il faut le rappeler.
Vibré.
Vos oreilles ont soufflé.
Ma jambe de
on soufflé.
On soufflé.
Il souffle des oreilles.
Oui, quand je... Quand je pense à vous, Céline Salette, je pense à une grande dame, un grand personnage du théâtre, une grande dame à qui vous avez osé dire un jour, lors d'un stage où vous trouviez, que vous ennuyiez. Et cette grande dame, on l'écoute.
Il est le stimuli, il stimule par ses propres émotions un autre type d'émotion chez le spectateur, de révélation, et souvent d'ailleurs, je pense, de décision presque.
La définition d'acteur ou de l'actrice, hein, par Ariane Mnouchkine, dont vous aviez suivi un stage avec elle et vous aviez sorti un truc qui l'avait surpris ou qui
l'avait choqué. C'est trop beau, merci de nous l'avoir fait réécouter, j'adore cette femme.
Alors, qu'est-ce qui s'était passé ?
Hein ? Non, parce qu'en fait, cette espèce de grand stage qu'elle organisait, il y avait 400 personnes. Et
c'était au Théâtre du Soleil.
Oui, absolument. Et le thème des impros, c'était « On était à la cour du roi ». Et nous, on était une troupe de paysans qui devions passer devant le roi.
C'était pour quelle pièce ? C'était une improvisation.
Oui, c'était une improvisation. C'était pas, on faisait des impros dans ce stage. Et du coup, on était comme ça sur le banc à côté. Elle nous interrogeait. Alors, mais pourquoi êtes-vous là ? Et d'un coup, moi, je m'étais levée, j'avais crié parce qu'on s'ennuie. Pourquoi êtes-vous venu de si loin ? Parce qu'on s'ennuie. Et ça a fait rire tout le monde. Moi-même, j'étais très surprise de ce que je venais de dire. Mais je pense que cet ennui venait de très loin.
Et c'était un professeur, ou est-ce qu'on peut dire que c'était un professeur, Mnouchkine ?
Non, je ne l'ai pas connu assez pour que ce soit un professeur. En tout cas, c'est une sorte de maître, évidemment. Ouais. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Georges Bigot, qui était un de ses acteurs, qui avait travaillé avec elle dans beaucoup de spectacles, à la fac de Bordeaux. Et lui, par exemple, c'était un de mes grands professeurs. J'ai beaucoup appris avec lui.
Et ça a duré combien de temps ?
La fac, j'ai fait 4 ans à la fac de Bordeaux. Et parallèlement à ça, j'ai joué avec un metteur en scène qui s'appelait Laurent Lafargue. Des spectacles de Shakespeare, Le Songe d'une été, Othello. Je vous donne mon CV.
On va l'évoquer tout à l'heure dans votre bande originale.
Dans mon parcours. Voilà. Et après, je suis rentrée au conservatoire assez tard, quand j'avais 23 ans.
Et vous avez recroisé le chemin d'Ariane Mnouchkine ou pas ?
Non, jamais.
Jamais ?
Non.
Vous suivez ses spectacles ? Vous continuez à suivre son travail ?
J'ai parfois été voir ses spectacles, ouais. Mais c'est vrai que ça me manque un peu. Il faudrait que j'y retourne.
Et l'ennui, il est encore là ou pas ?
Est-ce que non. C'est...
C'était non. Vraiment au début, c'était le fait de ne pas pouvoir jouer qui...
Non, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on joue, quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de jouer ? Moi, je sais que profondément, si j'ai un besoin physique de jouer, parce que sinon, je me fais trop chier, c'est vrai.
Ah, c'est pour combler l'ennui ?
Non, mais je ne sais pas comment vous dire. C'est une sorte de contentement intérieur. C'est une expérience intérieure. C'est un peu que je dis beaucoup, c'est comme de la drogue chez moi, mais ça me produit beaucoup d'adrénaline. En termes hormonaux, je ne peux pas très bien vous dire ce qui se passe.
Exactement.
Mais... Pourquoi ça part en accent belge ?
Pourquoi ? C'est une autre partie du
D'accord.
film.
Est-ce qu'on peut dire sans se tromper que vous êtes un peu possédé ?
Absolument.
Ah, voilà.
C'est tout à fait ça.
C'est peut-être ça. Être comédien, c'est être possédé.
Absolument.
En fait.
Incarner un rôle, c'est être dans la chair de quelqu'un d'autre.
Et puis aussi, être acteur, c'est vraiment être un média, un véhicule. On est quand même un espace vacant, un grand vide. Et donc,
certaines comédiennes, ça se voit un peu plus que chez d'autres.
Oui, absolument. Et donc, on est comme ça, un espèce d'espace. C'est Peter Brook qui parlait de l'espace vide. Et donc, on est traversé. Et donc, quand on est traversé par les mots des autres, des histoires, par le fait de jouer devant des gens, par exemple sur scène. Moi, je me rappelle quand j'étais à la fac, je pouvais avoir l'impression d'être à un mètre du sol. Si je me rappelle, j'avais joué pendant 20 minutes. Je me rappelle absolument pas ce qui s'était passé dans ces 20 minutes. Je m'étais pété l'orteil, j'avais rien senti. C'est-à-dire qu'il y a ces premières transes que moi j'ai connues avec le théâtre, mais par la suite aussi sur les plateaux de cinéma, hein, entre moteur et coupé. Ces transes-là, c'est vraiment des choses qui font que j'ai pulsionnellement besoin de jouer, quoi.
Quand vous retombez, vous chialez, vous.
Ouais, grave. Non, c'est vrai.
Le père Albert aurait été là, il vous aurait exorcisé.
Et confessé.
Mais je suis là.
Et il est toujours là dans le.
Il n'est pas possédé du coup.
Moi, je crois qu'on est tous. Non, mais
à tout moment, il peut intervenir. Alors, on va rester dans la formation, disons dans l'enseignement, parce que quand je pense à vous, Nicolas Sillol, je pense à une école, la Fémis.
Tu
alors,
le fais bien.
Pour ceux qui le connaissent pas le sens de ces lettres. C'est l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son que vous avez fréquenté pendant 4 ans à partir de 2016.
C'est ça, en scénario.
En scénario, parce que il y a un cursus qui est en 7 départements, je crois. Il y a la réalisation, oui. Le scénario, le son, l'image,
tous les métiers du cinéma,
les décors, etc. Alors, la FEMIS, à un moment, à un certain moment, hein, il était de bon ton, un peu de la, disons, non pas de la brocardée, mais dans le monde du cinéma, il y a des gens qui réalisent des films après être passé par la FEMIS, puis il y en a d'autres qui n'ont jamais été cinéastes, qui n'ont jamais suivi d'enseignement aujourd'hui et qui font des films. Donc, ça vous semble vous, indispensable de passer par la FEMIS ou...
Certainement pas, mais moi, ça m'a aidé. Et j'y ai rencontré surtout tous les amis avec qui on a appris à faire des films et avec qui je continue de travailler aujourd'hui. Et c'est surtout ça que j'en retiens, moi, c'est les rencontres que j'y ai faites.
Alors c'est une histoire assez ancienne la FEMIS, parce qu'autrefois ça s'appelait l'IDEC, hein, l'Institut, je ne sais plus quoi, des hautes études cinématographiques, voilà, où il y a eu des illustres cinéastes, hein, Louis Malle notamment et quelques autres. Et donc, c'est pas pluridisciplinaire, vous avez fait uniquement scénario ou il y a les autres disciplines,
la première
vous y
année,
avez touché un peu?
Absolument, la première année de la FEMIS, c'est ce qu'on appelle le tronc commun, et là, tout le monde passe à tous les postes et apprend tous les métiers. C'est une école qui a le grand avantage où on apprend en faisant. Donc on tourne tout le temps. La première année, chacun réalise un film et après, chacun rentre dans son département et dans sa spécialité. Mais on continue de travailler et de faire des films ensemble. C'est ça qui est très formateur.
Alors vous ne le dites pas parce que vous êtes modeste, mais il y a un examen d'entrée. C'est pas tout le monde qui peut rentrer à la FEMIS.
Oui, qui est très sélectif. Il y a un film documentaire qui est sorti là il y a quelques semaines, ouais. Qui s'appelle Le Concours de Claire Simon, qui donne un aperçu intéressant.
Et c'est difficile d'y entrer.
Le pourcentage est très faible, je crois.
Il est très faible, oui. Donc il y a un peu de loterie, il y a beaucoup de chance.
Ouais. Oui, on va dire ça comme ça.
Il n'y a pas de piston quand même.
J'espère pas.
Quelques enveloppes.
Alors, Corporate, revenons-y. Sort aujourd'hui.
5 avril.
5 avril. Dans quel état on est le jour de la sortie de son film, Nicolas Sciol?
On est un peu fatigué parce qu'on l'a accompagné les jours derniers. On est allé en province, en avant-première. On est fébrile parce que c'est le jour où le coup prétombe, on va dire. Mais je suis heureux, moi, d'avoir rencontré des spectateurs, d'avoir discuté avec eux autour du film.
Et... L'impact est important, j'imagine, les témoignages des gens, ça libère la parole.
Absolument, exactement. Et... C'est un des sujets du film, la libération de la parole, et puis ça se prolonge dans la salle. Et effectivement, on a recueilli avec Céline des témoignages qui étaient bouleversants, parce que ça interpelle les gens, ça les renvoie à eux. Certains ont vécu des situations aussi dramatiques. Mais d'autre part, ça les renvoie de manière plus générale à la place du travail dans leur vie, au sens qu'ils ont envie de donner à leur travail. Et voilà, donc ça, effectivement, on a eu des...
Oui, c'est très surprenant de voir à quel point c'est concernant. C'est-à-dire que le film appartient vraiment aux gens qui le voient. Donc, je pense que je n'avais pas mesuré avant ça à quel point la souffrance au travail, c'est une chose qui est partagée, en fait, hein, assez commune.
Eh bien non, on vous invite à aller voir ce film parce que ça peut vous permettre d'en parler, ça peut aussi vous permettre de voir du beau cinéma, et ça, c'est quand même plutôt la belle occasion. Avec Céline Salette, avec Lambert Wilson, on parlera de Stéphane de Groot, de Violaine Fumeau aussi. Un film, le premier long métrage de Nicolas Sciol. Il y en a un autre qui a arpenté la province, à la rencontre du public, avec un peu moins de chance. C'est Frédéric Sigrist, c'est ta drôle d'humeur. Allez, Fred.
Tu lis en moi comme dans un livre.
Ouais, je sais, c'est troublant.
Démissionner. C'est marrant. Le jour où on reçoit des comédiens qui viennent nous parler d'un film sur le harcèlement au travail, Nagui est pas là. Alors que quand c'est un film sur une bande de filles qui sniffent de la coke au Brésil, là par contre, tu sens qu'il a bossé le sujet. Alors Corporate, moi, c'est un film qui m'a touché, hein, parce que, bon, je n'en parle pas forcément à l'antenne, mais j'ai moi-même été victime de harcèlement.
Il y a deux
petits chefs qui m'ont pourri la vie, mais c'était horrible, parce qu'en plus il y a quelque chose de vraiment terrible dans le harcèlement, c'est que au début on s'imagine que c'est normal, hein, on n'ose pas en parler, on pense que c'est pour tout le monde pareil, et puis jour après jour c'est là que ça devient de plus en plus difficile à vivre. On s'enferme aux toilettes pour pleurer, et au bout d'un moment, moi je sais que vraiment physiquement je le sentais, j'ai craqué, j'en pouvais plus, je les supportais plus, donc je suis allé voir une aide juridique qui m'a dit qu'elle pouvait rien faire pour moi sous prétexte qu'on peut pas appeler ça du harcèlement quand ça vient de ses propres enfants. Voilà. Oui, parce que je suis en train de vous parler de mes gosses, en fait. Et franchement, c'est quoi le rapport qui unit un enfant à un parent si c'est pas du harcèlement?
Hein, dès 6h30 du matin, ils viennent s'incruster dans ton lit. Et bon, là, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais vous avez vu le master que je suis. Hein. Déjà, en temps normal, ma femme dans un lit de place avec moi, c'est une espèce menacée. Hein. On a fait installer des limitations de vitesse dans mon plumard pour éviter que je lui roule dessus trop vite. Bon, bah, imaginez la soudaine irruption de deux tyrans de 8 et 3 ans qui viennent réclamer un le biberon, l'autre des tartines, pas même un bonjour, corvéable à merci. Hein, vous devez gérer leur emploi du temps, pas d'horaire, pas de jour de repos, vivre avec un enfant, c'est le programme de François Fillon, les complexes en moins. Hein, tu leur sers un plat qu'ils aiment pas, ils te le balancent par terre, impossibilité de se syndiquer, les pauses repas, t'oublies, ils te poursuivent jusqu'aux chiottes, des fois tu fermes, tu coupes la lumière, ils grattent et papa, tu dis mais dans quelle entreprise on supporterait ça? Hein, tu, en tant que parent, tu démissionnes, c'est toi qui es mal vu. Si un jour, par malheur, tu leur dis non, parce que t'en peux plus, il te reste encore une once d'estime de soi, tu vois, tu dis non, je peux pas céder sur tout, eh ben, ils peuvent t'humilier en se roulant par terre en pleine rue. Ils te poussent à la faute préalable, à l'avertissement. Et si t'as le malheur de te laisser aller à lever la main sur eux, ce que, humainement, on peut comprendre, non, eh ben là, t'es condamné, par le reste du monde qui te regarde en disant, oh, mais quel parent indigne. Non, mais essayez de mettre vos enfants au prud'homme et vous verrez, la justice de ce pays a un biais énorme pour les gens qui ont encore des dents de lait. Hein. Et s'il y avait qu'eux qui me harcelaient à la maison, mais ma femme aussi. Dès que je suis à la maison, c'est reproche. Des fois, je pars jouer mon spectacle en province pendant une ou deux semaines. Et ben, croyez bien que c'est pas simple, une tournée. C'est pas simple. T'arrives dans des endroits, tu maîtrises pas la langue, t'as pas fait tous tes vaccins, t'es obligé de goûter tous les alcools, de dormir dans des tas d'hôtels luxueux, mais que tu connais pas bien. T'es pas chez toi. De te faire applaudir par des tas de publics différents, juste parce que tu recherches un manque d'amour qui remonte à l'enfance. C'est compliqué, une tournée. Et ben, quand je reviens à la maison, reproche. Soit disant que je m'investis pas assez dans la vie de la maison. Mais franchement, je viens à peine de rentrer. Je trouve ça beaucoup plus respectueux de ma femme de ne pas vouloir imposer mon rythme dès mon retour. Moi, quand je reviens, j'ai l'humilité de leur dire, faites comme si j'étais pas là. Évidemment que je pourrais me mettre à emmener les gosses à l'école, à faire le ménage, les lessives, les courses. Mais est-ce que ça serait pas une manière grossière de lui dire, décidément, si je veux que ça soit bien fait, il faut que ce soit moi qui le fasse. Hein, non, moi je respecte l'importance qu'elle a pris au sein de notre structure familiale. Et ben pourtant, même en lui expliquant tout ça de manière objective, totalement objective, hein, ben, reproche. Une chemise sale que j'ai laissée traîner sur une chaise du salon, pour elle c'est de la négligence. Alors que pour moi, c'est des souvenirs olfactifs que je tente de partager avec elle. Hein. Bref, ce matin, ce que vous appelez harcèlement, moi j'appelle ça tout simplement la vie de famille.
C'est un scandale absolu. Nous parlons du film Corporate qui sort aujourd'hui sur tous les écrans avec Céline Salette, le premier film de Nicolas Sciol. Vous êtes avec nous dans la bande originale et comme le veut la tradition, Nagui est en vacances, hein, donc on lui fait un petit bisou quand même.
Il est en vacances de temps en temps, c'est pas la tradition.
Il a décidé de partir en vacances tout le temps. En fait, voilà, c'est comme ça. En tout cas, on va évoquer avec vous, Céline et Nicolas, quelques dates de votre vie qui ont retenu notre attention et on les met bien entendu en musique. On commence en 94. 95 et vous écoutiez Céline Salette. Waiting on an angel, one to carry me home. Ben Harper, Waiting on an Angel.
Ouais, j'étais une toute petite fille. Hein. J'attendais le prince charmant. L'accent belge. Non, et des fois, j'ai croisé des très jeunes types avec des guitares qui chantaient cette chanson et ça pouvait me faire...
Vaciller.
Mourir d'envie de les embrasser.
Ah, d'accord. Donc, 94-95, vous intégrez une troupe de théâtre à Bordeaux ?
Oui.
Une troupe quoi, semi-pro ? Alors,
C'était des semi-professionnels, ils s'appelaient le Théâtre des Égrégores, ils avaient tous 35 ans, j'avais 14 ans, j'étais très petite, et on faisait des ateliers, c'était assez fou. Hein. Et après, on faisait des festivals, tout ça, dans les rochers, j'allais dire. Non, à Saint-Macaire, non, parce qu'il y avait des citadelles un peu autour de Bordeaux, des espèces de villes un peu charmantes et tout ça, on jouait un peu en extérieur. Buvant de la vodka.
Oui, c'est ça, 14 ans, vous étiez très jeune. Vos parents vous suivaient.
14 ans, la vodka, c'est bien quand même.
Non. C'était Frédéric, votre papa ?
Non,
comment
ça ? Non, c'est drôle. Non, mais, ouais, mais mon père m'amenait, c'était le soir en fait, les ateliers, trois fois par semaine j'y allais. Il m'amenait, il revenait me chercher à minuit. Très très mignon, papa, je t'embrasse, papa, je t'aime. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Sans rien demander, hein, il attendait parfois une heure dans la voiture. Et donc. Non, c'est ça, j'ai fait beaucoup de théâtre.
Et pourquoi vous êtes inscrite au théâtre? Qu'est-ce qui vous a poussé à y aller?
Et ben, quand j'avais 13 ans à Arcachon, j'enlève ce casque, ça sert à rien.
On l'enlève.
Quand j'avais 13 ans à Arcachon, la première fois que je suis montée sur scène, alors, je suis allée au cours de théâtre au collège là, parce qu'il y avait un type que j'aimais bien qui en faisait. Ah. Après lui, il a arrêté. Et moi, j'ai continué. Non, il faisait pas de guitare. Et alors, moi, je me rappelle, le premier truc que j'ai joué une prof hippie, j'avais des petites lunettes bleues et tout ça. Et j'ai fait rire un peu les gens et ça m'a procuré une sensation folle. Après, j'ai plus voulu arrêter.
Et vous avez donc continué, vous avez passé votre premier casting à Bordeaux. C'était à peu près dans ces mêmes années, vous étiez assez jeune.
Oui, c'est vrai.
C'était pour un rôle, pour une pièce pour
avec
une...
Ariane Ascaride, on a fait un petit court-métrage.
Ah, pas mal.
Qui s'appelait Les Trois Manteaux.
Ariane Ascaride.
Oui, oui.
Comment elle est arrivée sur votre chemin comme ça, Ariane Ascaride, elle débarque
ouais,
du jour au lendemain?
En bagnole.
On avait pris un bus.
Et après, vous poursuivez, vous l'avez dit tout à l'heure à Albert, fac de Bordeaux. Et ouais. Donc la rencontre de Georges Bigot.
Fac ouais. de Bordeaux, mais pas la fac de vin. Hein,
non, la section théâtre. Apparemment, il y avait une prédisposition. Et il y a eu des envies de cinéma à cette époque-là?
Non,
déjà,
c'était un peu abstrait pour théâtre. Moi. Non, je voulais vraiment toujours, je voulais continuer à sentir ce que je sentais physiquement. Ouais. C'était très l'expérience physique qui me guidait. Et après, non, je savais pas je savais même pas que c'était un métier. Ça, je croyais que j'allais faire.
Moi, je
ouais, c'est ça.
Non, mais un jour, on aura un vrai boulot.
C'est toujours aberrant. Ouais, voilà. Non, mais je croyais que j'allais faire une troupe comme ça avec des gens de la fac ou. Moi, je croyais que j'allais faire une troupe en région, quoi. Enfin, je me posais pas tellement de questions. Et après, j'ai compris en travaillant. Après, avec des gens qui avaient fait le Conservatoire de Paris, qui avaient 20 ans de plus que moi, qui disaient « Ouais, enfin, c'est quand même compliqué, Céline, vraiment. »
C'est un vrai métier.
Voilà.
C'est un vrai métier. Dans les mêmes années, Nicolas Sciol, en 95, vous écoutiez ceci.
J'écoute toujours.
Big Rivers.
On sent une jeunesse passée à consommer des substances illicites.
The Doors, Riders on the Storm.
Et quand vous croisez un chanteur qui chante sous la pluie, ça vous donne envie de l'embrasser aussi.
Vous, en juillet 95, c'est l'été de votre bac, Nicolas. Ouais. Et c'est votre première aventure de tournage. C'était
ouais.
où?
C'était dans les Cévennes. C'est une région qui m'est très chère, la région de mes ancêtres. C'est un peu la même histoire que Céline, c'est-à-dire que vers 15 ans...
Bon, alors on passe à autre chose.
Voilà, on se rencontrer. Je découvre le théâtre, moi aussi, et sauf que moi je découvre que je ne suis pas du tout fait pour être acteur, que je suis mort de trouille, un traqueur fou. Et cet été-là, avec la petite troupe de comédiens et d'apprentis comédiens qui m'entouraient, c'est la première fois que je m'improvise dans ce rôle de réalisateur ou de... metteur en scène. Et c'est là où donc je les ai embarqués dans une aventure. On jouait des camisards au fin fond des Cévennes. On était complètement allumés. C'était très romantique. Et
t'as
voilà.
chopé ou pas?
J'ai chopé. Ouais.
Se fait déniaiser.
Ouais. C'est quoi ces accents là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas. C'est contagieux.
Et alors, la troupe qui vous entourait à l'époque, c'était des gens que vous avez rencontrés quand même au cours Florent. Parce
voilà.
que vous avez aussi
c'est ça.
Eu cette formation là. C'était quoi? Des stages d'été où vous
Un étiez... stage d'été, puis j'y allais ensuite le samedi. C'était aussi pour moi la découverte de Paris. J'étais en banlieue et donc c'était mes premières aventures parisiennes ouais. aussi. Voilà, c'est là où on grandit, quoi, et on découvre le monde.
Et quand vous dites que vous n'étiez pas fait pour être comédien, vous l'avez senti à quoi?
Assez vite, parce que je...
La réaction des gens. Le dégoût dans le regard des gens face à moi.
C'est un peu ça. Non, il fallait qu'on me tire sur scène. Je me planquais dans la salle, au fond, et il fallait vraiment qu'on me tire de force sur scène.
Ça, c'était le théâtre?
C'est un sublime directeur d'acteur.
C'était physique. C'était vraiment une angoisse physique.
Alors donc vous reportez sur les autres.
Maintenant, je me venge.
Cette énergie-là,
oui, exactement.
Non, mais vous comprenez sans doute mieux aussi les comédiens.
Non, il est très bon directeur d'acteur.
Il me fascine et c'est ce que je préfère vraiment diriger les acteurs
Mais les très bons directeurs d'acteurs sont un peu acteurs. Hein. Je pense qu'il est un peu acteur.
Et en quoi on...
Oui, forcément.
Comment on qualifie, on distingue un bon d'un mauvais...
À l'odeur. La vie qui dit qu'une phrase.
C'est la réplique.
À l'odeur. Non, comment...
Parce que vous dites, c'est un très bon directeur d'acteur, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous?
Ça mélange de plein de choses. Il faut avoir le courage de dire à quelqu'un qu'il est très mauvais.
Il vous l'a dit?
De façon un peu gentille.
Plusieurs fois par jour.
Est-ce qu'il vous l'a dit déjà sur le tournage, par exemple?
Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Des fois, j'ai fait des scènes. je me rappelle d'une scène
si
notamment...
Si vous avez fait ça, oui, je le comprends. Là.
Quel est ce rire? Beaucoup de travail avec ce personnage. Non, par exemple, je me rappelle d'une scène que j'ai jouée. La fois, je pleurais, elle a dit, bon, il est revenu en disant, alors là, je crois que ça va pas être possible, donc on va s'arrêter là tout de suite. C'est-à-dire, une espèce de guide comme ça, de guide à la fois des curseurs, parce qu'en fait c'est pas tellement la question d'être mauvais ou d'être bon, c'est la question de ce qu'on raconte, qu'est-ce que c'est l'histoire. Le personnage c'est abstrait, il n'existe que dans... Et puis là, en l'occurrence, il y avait du boulot sur les curseurs d'opacité, de perversion, de gentillesse, de à quel moment on l'aime pas, à quel moment il faut qu'on l'aime quand même un tout petit peu.
Mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble.
On poursuit dans les années 2006-2008. Vous écoutiez Céline Salette.
Pourquoi parler hein.
Sheila.
Madonna, Hung Up. Et en 2006, Céline Salette, vous enchaînez plusieurs rôles, Meurtrière de Patrick Grandperret et aussi Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Ça, c'est la classe internationale.
Ouais.
Comment joué, on ouais. arrive dans un film de Coppola?
Non, c'est drôle parce que si j'en parle aujourd'hui, personne ne sait ce que j'ai joué d'ailleurs. Je suis presque invisible. Donc c'est drôle sur un CV, mais en vrai, c'était génial. J'ai passé 25 jours avec eux.
25 jours et on vous voit pas ?
Non, parce que je suis dame de compagnie de Kirsten Dunst. Donc c'est génial. Aujourd'hui, quand parfois je la recroise, je dis « Hey, salut, ça va ?» Ouais. Elle se rappelle vaguement de moi et Sophia aussi. Mais je restais un peu cette espèce de personne un peu bizarre qui est là tout le temps, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. Donc nous, j'étais avec Yo Bottoms, qui était une Américaine, la fille de la nounou de Sophia. Et donc on portait les chaussures, on tenait les parapluies, on faisait des trucs un peu... On faisait partie du décor un peu.
Ouais.
Mais c'était génial, on prenait aucun risque et on voyait tout.
Alors justement, qu'est-ce qu'on voit sur un tournage de Sofia Coppola? Qu'est-ce qui revient comme idée pour vous quand vous pensez à elle en train de diriger les acteurs justement?
Le calme absolu carrément. Alors là, et vraiment, Sofia, elle était impressionnante de... Aucun problème de pouvoir avec quiconque, je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que...
Et l'instant par la douceur
tranquille. Ouais. Ouais, tout...
Un peu neurasthénique, non? Non.
En même temps, t'es la fille de Coppola, donc j'imagine que ça te pose quand même bien. Ça, ouais.
Voilà, c'est ça.
Quoi, les rites, quelque part,
oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait
une tranquillité.
Exactement. Une forme de force tranquille, comme ça. Et Meurtrière, c'était génial, parce que c'était quand même ma vraie... C'est quand même l'expérience qui me lance
dans le cinéma.
Dans le cinéma. Mm-hmm. On a été... on était avec Sylvie Piala, qui était... c'était le premier film qu'elle produisait avec les films du Verso. Et donc... et Patrick Grandperret, c'est le premier rôle... C'est un cadeau immense. C'est très difficile de rentrer dans le milieu du cinéma. On donne qu'à ceux qui ont déjà. On peut passer des essais et être bon, mais si t'as pas déjà fait quelque chose, t'auras pas le rôle.
Et là, comment
donc, c'est un peu une aberration.
Comment ça s'est passé?
Là, casting sauvage un peu. Il faut un téméraire. Il faut quelqu'un qui ait pas peur. Il faut quelqu'un qui dise bon bah allez, viens. On sait pas si moi j'avais entendu des trucs comme on sait pas si tu vas tenir à l'écran 1h30. C'est un peu une aberration, tu vois. Il n'y a personne qui va tomber de l'écran, jamais. On ne sait pas si tu vas tenir. Bah, écoutez, je vais m'accrocher. Mais du coup, il faut comme ça que quelqu'un prenne un risque le premier, quoi.
Et justement, Nicolas, à l'inverse, quelqu'un a pris un risque pour Céline. Vous, c'est votre premier long métrage. Et vous avez quand même un super casting. On pourrait se dire, tiens, il a réussi à convaincre Lambert Wilson, Céline Salette, Stéphane de Groot, Violaine Fumeau, et j'en passe. Comment vous y êtes pris? Comment ça a marché?
Bah, c'est sur la lecture du scénario.
Ouais.
On passe par les agents. Et puis.
Vous avez pensé à qui en premier dans les rôles que vous avez distribués?
À eux, tous, bien sûr.
Ah, vous avez vraiment.
Dis que tu pensais à moi d'abord.
Ouais,
il est chiant.
Il a passé son temps à venir. Céline, j'ai pensé à elle très tôt.
Merci.
Non, mais à eux tous, même. À chacun dans leur rôle, je voulais dire.
Oui, bah, j'ai compris.
Vous avez vu, hein.
C'est pas possible.
On dit que les actrices sont pas reloues, putain.
Non, j'ai pensé à Céline très tôt, effectivement, parce que c'était un rôle où moi je l'avais jamais vu. Je l'avais adoré dans tous ses films, mais bon, toujours impressionné.
C'est pas du tout la même nature. Le rôle que vous lui confiez,
voilà.
Qui est très austère, qui est très fermé, est assez opposé à la personne de Céline Salette.
Absolument.
On vient de l'entendre très,
oui,
dans les imitations, tout ça, voilà.
Ouais. Pas très corporate. Et c'était ça un peu c'était ce défi-là du contre-emploi qui était intéressant. Et qui faisait que, comme c'était un rôle qu'elle n'avait pas déjà joué, on avait un champ d'exploration ensemble. Vierge, on allait pouvoir tout inventer, donc ça c'était très stimulant.
Et quand Céline dit oui, ça fait venir Lambert Wilson, ça fait venir plus facilement les autres.
Tout le monde débarque.
Non, ce qui fait venir, c'est le projet, le film.
Le film.
Le scénario était.
Alors justement, pour aller plus loin sur ce film, on accueille Marie-France Irigoyen. Bonjour Marie-France.
Bonjour.
Vous avez déjà fait le plaisir de venir dans la bande originale. Vous revenez et vous êtes psychiatre et psychanalyste. Et on vous a choisi parce que finalement, en 98, c'est vous. d'une certaine manière, qui avait inventé le terme de harcèlement moral, qui est un terme qui est malheureusement devenu assez récurrent dans le monde de l'entreprise. Vous aviez sorti un livre, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, 450 000 exemplaires vendus, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis concernés par cette histoire. Et vous avez participé, surtout, et ça c'est très important, à un groupe de réflexion qui a conduit à faire voter un amendement qui introduit vraiment le harcèlement moral dans le Code du travail. Et on pourrait se dire que c'est très très vieux, mais c'est assez récent.
Oui, alors c'est assez récent, mais quand on avait... quand j'ai inventé ce terme, harcèlement moral, pourquoi moral ? Parce qu'en français... le terme moral a un double sens, ça veut dire à la fois psychologique et ça veut dire aussi une notion de bien et de mal. Et les premières personnes que j'avais reçues, où j'avais senti ce que c'était que le harcèlement moral, disaient « c'est pas bien ce qu'on m'a fait, c'est pas juste ». Alors, le problème, c'est que quand moi j'en avais parlé à ce moment-là, on ne voyait du harcèlement que ce qui se passait entre un harceleur et une cible désignée. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a commencé à comprendre comment fonctionnait le harcèlement moral, on a vu que si c'était possible, c'était parce qu'il y avait un système autour qui le favorisait. Et depuis, il y a eu beaucoup de recherches sur ce sujet, et en particulier, il y a eu en 2009 un arrêt de la Cour de cassation parlant du harcèlement managérial.
Ah, voilà. Et là,
on est complètement dans le film. Parce que, au fond, ça dénonçait du harcèlement. Le harcèlement moral, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut être entre collègues, d'un supérieur hiérarchique, ça peut être descendant, ça peut être aussi remontant, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Et dans le cas du harcèlement managérial, c'est uniquement un système, des méthodes de management qui sont en cause.
C'est une politique d'entreprise même.
Oui, alors, faut être clair, la loi, enfin, cet arrêt de la Cour de cassation considère que des méthodes de management peuvent être comme du harcèlement moral, à condition que ça cible une personne, c'est-à-dire c'est quand même pris individuellement. Ça amène toute une réflexion sur ce qui se passe dans le monde du travail. Très clairement, le monde du travail est de plus en plus déshumanisé. Je parle des grands groupes, là, parce qu'il y a dans des petites entreprises des dirigeants qui essaient de fonctionner autrement. Mais dans les grands groupes...
Comme dans Corporate.
Dans les grands groupes, ça fonce. C'est-à-dire que les individus... Au fond, les personnes, ça ne compte plus vraiment, ils sont des ressources. C'est-à-dire, et j'entends quelquefois des personnes qui disent « bah oui, on m'a retiré une ressource ». C'est-à-dire, on vous a retiré un collaborateur.
Un moyen.
Et ils ne disent pas « on m'a retiré un collaborateur », on me dit « on m'a retiré une ressource ». Et donc, il y a de plus en plus de pression sur les personnes. Alors, dans ce qui a été dit, moi quand même, j'ai trouvé que vous avez été... très dur avec les DRH. Parce que...
Alors attention, parce que dans le film, c'est pas tant un jugement
film,
des DRH.
Non,
parce que c'est un film plutôt optimiste, on va y revenir.
Non, mais dans le film, non. Mais tout à l'heure, dans ce que vous avez dit, dans les commentaires que vous avez faits...
Oui, non mais Tom, il faut pas l'écouter.
Non mais moi, j'ai des ressources autour de moi qui sont pas fiables.
Ah voilà, c'est ça.
Non mais Tom est très très dur.
Dites-nous Marie-France,
mais parce que je trouve que le boulot des DRH actuellement est difficile, parce qu'ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Parce que je suis en même temps thérapeute...
Donc vous entendez
aussi. Et j'ai en thérapie des DRH qui souffrent parce qu'on leur demande de mettre la pression. Ils sont pris dans une souffrance éthique, c'est-à-dire il faut qu'ils fassent partir des gens. Ils essaient de le faire proprement. Quelquefois, ils y arrivent. Quelquefois, c'est très, très dur. Et quelquefois, ils n'ont pas d'autre solution que de partir. Je crois que c'est vraiment un système qui va dans le mur, parce que à force de faire souffrir des personnes comme ça, on les rend malades. Alors d'où cette interrogation sur le burn-out, sur le harcèlement, je crois que vraiment il faut que
ce serait quoi, les
et comment oui, comment on fait oui. bouger le système en fait, parce que dans le film on voit que le personnage de Céline Salette, quitte à s'accabler en produisant un certain nombre de preuves à l'inspection du travail, permet
c'est une position courageuse, hein,
oui. Alors comment on fait concrètement dans la vraie vie, là on est
dans la vraie vie, moi je vois des changements dans des plus petites entreprises, des plus petits groupes, donc où on essaie de faire autrement. Dans les grands groupes, je pense qu'on va dans le mur.
Et comment on fait pour prouver ? C'est de plus en plus compliqué de prouver, en fait. C'est aussi la vraie question. C'est comment on prouve qu'on est victime de ce harcèlement ?
Il y a eu, on peut le nommer, Orange, où il y a eu une mise en examen. On n'a pas encore tous les attendus de tout ça. Je crois qu'on essaie de trouver des solutions. À ce sujet, je voudrais dire que je fais partie d'un groupe de recherche international sur tous les chercheurs qui travaillent sur... On est à peu près 300 chercheurs dans le monde sur ce sujet. Et j'organise en juin 2018, à Bordeaux. Un grand congrès international sur ce sujet qui est multidisciplinaire. Parce que on ne peut pas dire que ça ne concerne que les ressources humaines. C'est aussi un problème de société. On est dans la rentabilité, dans l'efficacité immédiate. Il faut du chiffre.
Est-ce qu'il faut des mesures étatiques pour en venir à bout ? Parce que vous n'avez pas l'air très optimiste pour les grands groupes. Non. Est-ce qu'il ne faut pas justement forcer la mesure ?
Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises.
Mais plus coercitives, j'entends.
Il y a eu des mesures, une obligation de résultats dans la prévention des risques psychosociaux. Il y a des mesures. Mais moi, je crois que depuis le début, j'ai pensé que la loi, c'est important, ça met une limite. Mais ça ne suffit pas si on ne change pas les mentalités. De plus en plus, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aller. Les jeunes n'ont plus envie d'aller travailler dans les grands groupes. Je vois des jeunes qui essaient de trouver d'autres façons de travailler.
Mais ce que je pense, c'est que dans les grands groupes, on se rend compte aussi que c'est tout à fait contre-productif.
C'est contre-productif.
Ça n'amène rien. Au contraire.
Mais ils le savent.
Oui, mais moi, je pense que ça va bouger. Parce qu'il y a d'autres méthodes qui existent. Maintenant, la coopération, il y a d'autres modes de management qui émergent, et je pense que c'est comme la lumière, ça va vite, quoi. Dès que des solutions émergent, dès qu'on entend des choses différentes, des innovations, je pense que moi, elles vont se répandre aussi vite que le reste.
Et que faire quand on se sent victime de harcèlement en entreprise ? On en réfère à qui ? Alors là, on voit qu'il y a un personnage qui est central, c'est l'inspection du travail.
Là, c'est dans le film, c'est parfait. Hein. Je veux dire, le film, il est absolument très clair là-dessus.
Est-ce qu'il y a d'autres structures d'écoute ?
Il y a la médecine du travail, il y a l'inspection du travail.
La police ?
Dans certains cas, oui.
Bien soi-même, on peut prendre son flingue et puis régler le problème.
Merci Albert. Merci. Alors on va oublier cette recommandation.
Mais aussi, il y a peut-être des solutions personnelles.
Deux Albanais.
Non. Je crois aussi qu'il faut se faire aider parce que c'est très difficile. Dans ces systèmes-là, on pousse les personnes à la faute. Et donc, il faut se faire aider pour justement ne pas péter les plombs et sortir son flingue, justement. Il faut faire très attention. Et moi, on pousse les gens à la faute dans
Bien sûr, évidemment.
Et j'ai une question, la thérapeute, est-ce que donner la possibilité à des salariés justement de pouvoir démissionner et de toucher le chômage comme certains candidats le proposent aujourd'hui, est-ce que ça serait vraiment une solution justement pour faciliter dans des groupes comme ça.
Il y a déjà ça, en cas de harcèlement, on peut tout à fait donner sa démission et le faire requalifier au prud'homme. Faut quand même savoir que maintenant, ces méthodes de management, c'est aussi dans la fonction publique. Oui. On a vu énormément de suicides ces derniers temps, beaucoup plus que ce n'est affiché dans les médias, beaucoup de suicides sur... Dans les hôpitaux, on a des suicides dans la fonction publique. Je crois que, par contre, dans la fonction publique, on est beaucoup moins bien protégés. Donc, il faut en parler. Il faut essayer de bouger les mentalités.
Et en un mot, est-ce que c'est difficile de se remettre de cette situation ? Parce que quand on a été victime de harcèlement, comment on fait pour retrouver le chemin du travail ? Parce qu'à un moment, il faut bien.
Moi, je vois, alors je suis un peu pessimiste là, mais je vois beaucoup de personnes qui essaient de travailler autrement.
Oui, En créant après, leur structure, en étant...
créant leur structure, en faisant autre chose.
Merci beaucoup Marie-France Irigoyenne. Je rappelle que vous signez le harcèlement moral au travail aux éditions Que sais-je, donc ça peut intéresser nos auditeurs
oui,
pour savoir...
Oui, c'est un Que sais-je, tout petit livre, mais qui petit rassemble format, voilà. Tout ce qui...
D'ailleurs, je vais vous l'emprunter.
Voilà, voilà. Et puis, je rappelle que vous organisez en effet ce congrès Internet à Bordeaux.
International, en juin 2018.
Voilà, oui. Qui regroupe tout un tas de compétences pour
tous les professionnels
au mieux voilà, cette notion de harcèlement au travail. On le voit bien, Daniel Morin, que le harcèlement moral, si on a bien écouté Marie-France, je ne suis pas sûre que ce soit votre cas,
aussi.
Que le harcèlement est présent dans toutes les entreprises, dans beaucoup d'entreprises. Le pire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On a même tendance à fermer les yeux parce qu'on n'a pas évoqué non plus les collègues qui sont témoins de ça, mais qui ne réagissent pas. C'est une terreur, c'est insidieux.
Ah,
ça.
Ce que c'est mais bon en fait, c'est quand même enfin, détaisez-vous. Enfin, de la réflexion de haut niveau. Merci, monsieur Guy. Merci de votre absence. Mais... Merci de ne pas être venu. Merci, madame Daddy, de me donner la parole. Bien évidemment, quand je parlais de réflexion de haut niveau, c'était ma pensée, hein, bien sûr. Je parlais bien de sûr. Ça, bien évidemment. Pas de votre raisonnement gaucho, cucu, fémino-bohème. Non, non, car madame Daddy, non, le harcèlement moral, ce n'est pas une terreur. C'est juste. C'est juste une optimisation de management à des fins de développement et de croissance en se délestant du poids mort qu'est l'humain pour se concentrer sur la seule valeur qui compte, le profit. Ah, oh, je me dégoûte, j'espère que ma fille n'écoute pas, mais purée sa mère, ce que c'est bon de dire des trucs sales. Car non, madame Daddy, je ne céderai pas à la pensée socialo, coco, bolcho, coco, tout ce que vous voulez de cette radio. Le harcèlement, c'est l'avenir. Et oui, et pour tout vous dire, j'ai déjà assisté à des scènes de harcèlement et non, je n'ai pas fermé les yeux. Je les ai laissés grands ouverts pour profiter du spectacle et prendre une leçon de management despotico-libéral. Le seul qui vaille. Rien qu'à repenser, je suis tout émoustillé. Et arrêtez de faire cette tête-là, madame Daddy, votre tête de vierge qui vient de croiser 1 000 louis. Non. Regardez-vous. En une matinée, vous avez fait chialer tous les stagiaires de France Inter. Vous avez exigé que je vous porte jusqu'à votre siège. Vous m'avez intimé l'ordre de vous offrir une saillie à votre arrivée ce matin à 10h58.
J'en profite.
Hein, bah oui, je vois ça. Ça commence à bien faire cette imposture géante et gênante à la fois. Désolé, madame Daddy. Mais vous aussi, à votre tour, vous avez dit
n'importe quoi.
La bande originale sur France Inter.
Toujours la bande originale sur France Inter avec Céline Salette et Nicolas Sciol pour Corporate qui sort en salle aujourd'hui. Un peu de musique, The Selector on my radio. Et restez avec nous sur France Inter, on est là jusqu'à 12h30 dans la bande originale avec Céline Salette et Nicolas Sciol pour Corporate qui sort en salle dès aujourd'hui. Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez sur France Inter, c'est la bande originale avec Tom Villa, Frédéric Sigrist, Albert Albour, Daniel Morin, Richard Lornac, Nagui toujours en vacances, et nos invités sont Céline Salette et Nicolas Sciol.
Bonjour.
On parle de Corporate qui sort en salle aujourd'hui.
Vous avez
avec
les chiffres de 9h là ou quoi?
Pas encore.
Il veut pas savoir, pas
enfin
pour l'instant.
Un vrai bon film.
On n'a pas parlé du titre du film, non. Corporate, qui pose quand même question si on s'en réfère au personnage de Céline Salette, Nicolas.
Oui, c'est un mot un peu mystérieux, c'est un de ces mots d'ordre de la novlangue de l'entreprise. Mm-hmm. Nous, ce qu'on y met, c'est qui est dévoué à l'entreprise ou qui a justement a épousé les valeurs de l'entreprise et a mis les siennes de côté.
Djihadiste libéral.
Pas mal.
On va peut-être pas aller jusque là, mais bah,
si on peut y aller.
Elle se montre corporate jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où elle considère, Céline, qu'il faut s'en sortir.
C'est ça, elle est lâchée, elle se retrouve face au même comportement qu'elle avait mis en place elle-même, face à sa hiérarchie, lui ferme les portes, elle n'a plus accès, et elle se retrouve un peu acculée dans les cordes. C'est là qu'elle va bouger, en allant voir cette inspectrice du travail qui l'a menacée, donc de éventuellement engager des poursuites au pénal si elle trouvait des choses contre elle, contre ses méthodes.
Alors ce qui est intéressant dans le film, c'est que le compagnon du personnage de Céline Salette est britannique. Et c'est aussi une façon, Nicolas Sciol, de confronter deux visions du monde du travail. Ce qu'il a l'air d'avoir, lorsqu'elle lui annonce qu'un des salariés s'est suicidé, ouais. Sa réaction n'est pas à la hauteur de mes espérances à moi en tant que spectatrice.
Alors je suis pas un spécialiste de la culture anglo-saxonne du travail, mais effectivement je pense qu'il est lui beaucoup plus pragmatique et flegmatique. Et face à ce genre de drame, il comprend pas la fièvre qui s'empare d'elle. Et il y a cette formule « shit happens », ça arrive, et voilà, on passe à autre chose.
Il y a quelque chose de très cynique là-dedans.
Crac les roast beef quand même.
C'est un œuf de cassé.
Et c'était important aussi de faire parler Céline en anglais, son personnage en anglais. Qu'est-ce que ça apporte tout d'un coup qu'elle ait une union avec un homme d'origine étrangère, qu'elle ne s'exprime pas dans sa langue maternelle à la maison? Qu'est-ce que vous avez voulu amener là-dessus?
Bah, c'est symbolique, mais c'est qu'elle était un peu, même dans la sphère intime, un peu étrangère à elle-même en s'exprimant dans une autre langue. C'est un film qui travaille sur les registres de langage, les dialogues en entreprise, l'inspectrice du travail qui s'exprime plutôt à travers le droit. Oui. Donc voilà, j'avais envie comme ça que ça parle plein de langues différentes, et donc anglais aussi. Ça dessinait un background,
Une carrière internationale. Et comment vous avez abordé, vous, Céline, je sais que Nicolas a recueilli des témoignages de DRH, ouais, c'est ça, hein, ouais, clairement.
Ouais. Puis via votre papa aussi.
Oui, voilà, merci Tom de le remettre un petit coup comme ça.
C'est pour lui.
Mais oui, t'as raison. Et vous, Céline, comment vous êtes plongée dans ce personnage-là? Est-ce que vous avez un lien avec ça en particulier?
Aucun, ouais. Absolument, sauf celui de... Bon... C'est du jeu peut-être. Non, ouais. C'est du jeu peut-être, c'est-à-dire d'avoir la conscience du fait qu'on peut se dessiner. Mm-hmm. Donc on peut pas manipuler, mais dessiner un comportement. Et donc là, c'est vrai que c'est un registre que j'avais pas tellement travaillé. Hein. C'est un peu le registre de l'intimidation. Nous, on a beaucoup travaillé sur le requin, c'est-à-dire cette espèce de personnage qui se meut de façon un peu souterraine, espèce de prédation, mais
en
fluide.
Douce, ouais.
Ouais, fluide, fluide et belle, d'une certaine façon. Enfin, il aurait fallu que ce soit pas heurtant à regarder. Mm-hmm. C'était d'ailleurs très beau de voir à quel point la direction de Nicolas sur le personnage et sur le film en général, c'était aussi une question de justesse et de moralité. C'est-à-dire tous les personnages qui étaient dans son contre-champ, c'est-à-dire en souffrance, dans la sidération de ce qui leur arrivait ou de la façon dont ils pouvaient être manipulés par le personnage que je jouais. Lui, Nicolas, tenait absolument à ce que ces personnages soient beaux. C'est-à-dire pas dans une forme de
bestialité,
de colère ou de ça devait être très beau. Donc il a fait calmer tout le monde, c'est-à-dire ça devait être vraiment beau. Ça c'est une chose dont je me suis rappelé il y a pas longtemps que je voulais rappeler ici parce que ça fait partie de sa direction d'acteur qui était très Il y avait une grande rigueur dans son travail et c'est ça qui était très très agréable.
Et ce qui rend l'ensemble beaucoup plus violent finalement, dans une forme de rapport un peu aseptisé et assez calme, ça contraste avec les décisions qui sont prises et les conséquences.
Absolument, c'est vrai. Et je pense même en termes d'économie de moyens, plus on retient l'émotion, plus finalement elle finit par surgir.
Eh bien, il y en a un qui retient pas ses émotions, hélas, jamais. C'est Daniel Morin et c'est à ton tour, mon
chéri. Il retient plus grand chose.
En France, il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire à France Inter. Une saga quotidienne avec le colossal Patrick Cohen, Augustin Trapenard, le fou, Nagui, le tyrannique, mais aussi Laurence, la directrice accro à la ricorée, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Enfin,
en apparence.
En apparence. Aujourd'hui, on a l'honneur de nous inviter. Toute la grille de France Inter est dédiée au harcèlement au travail. Laurence, la directrice, fait son petit topo.
Bon les enfants, j'ai confiance en vous. Le thème du jour est le harcèlement au travail. Vous connaissez le sujet, hein, vous qui, à défaut d'être bien payé, êtes harcelé en permanence. Par vos chefs de service et par votre direction. Allez, je compte sur vous, bande d'incapables.
Tout commence dans la matinale du génie despotique Patrick Cohen. Ce dernier, une fois de plus, a une idée brillante. Au lieu de faire venir un invité spécial, il demande à ses stagiaires de témoigner. Bonjour Rebecca Manzoni.
Bonjour maître.
Rebecca, ça fait longtemps que vous êtes à mon service et que vous êtes peu payée.
Pas payée maître.
Oui bon, on va pas jouer sur les mots. Pourquoi êtes-vous si heureuse de travailler pour moi?
Eh bien c'est un honneur, c'est une joie. C'est mieux qu'un salaire, hein, d'avoir la chance de vous fréquenter.
C'est pas faux, quoi d'autre?
Eh bien je suis dans la misère financière, c'est vrai, mais d'être à vos côtés, ça me donne une grande richesse d'esprit, inégalée.
Merci Rebecca. Voilà chers auditeurs, comme quoi le harcèlement au travail n'est pas toujours une mauvaise chose. Brillant, une fois de plus, Patrick a été formidable. La thématique harcèlement se poursuit chez Nagui avec un angle pour le moins original. En effet, le pharaon de l'entertainment nous fait découvrir le harcèlement d'invités. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui, un comédien et un chanteur maltraité pour Nagui. Faites du bruit. Bonjour François Berléand.
Bonjour.
François, racontez-nous les moments les plus gênants de votre carrière et de votre vie privée. Ah ben non, c'est hors de question. Ah, si vous ne le faites pas, je ne parle pas de la promo. Mais c'est du harcèlement, absolument. Voilà, le temps que vous réfléchissiez. Voilà, on va écouter Vianney qui va jouer pour nous 5 lives en direct ce matin.
Ah non, on avait dit 3, pas 5. Non, je refuse.
Si tu refuses, je ne donne pas les dates de concert.
Mais c'est du harcèlement.
Affirmatif. Vous êtes bien dans la bande originale. Et maintenant, si tu me donnes 80% de tes droits d'auteur, on aura la chronique de Frédéric Segris. Mais c'est du harcèlement. Bingo! Quel à propos, quel talent ce Nagui. Comme quoi, hein, quand on prend les bonnes drogues, on peut être génial. Pour conclure cette journée dans la thématique et le harcèlement, Laure Adler invite dans l'heure bleue celui qui dernièrement représente le mieux le concept du harcèlement. Ce soir, dans l'heure bleue, je reçois un homme accablé de toutes parts, un homme qui en moins de 2 mois a reçu plus de coups qu'une bourrique albanaise et qui pourtant est toujours debout. François Fillon, bonsoir.
Bonsoir.
François Fillon, racontez-nous tous les harcèlements dont vous avez fait l'objet.
Ça a commencé par un article dans le Canard enchaîné et puis...
François Fillon dit tous les émissions durent 5h45, c'est du pur bonheur. Aujourd'hui encore, Radio France a été du grand, grand, grand France Inter. La thématique a été respectée à la lettre. Et pourtant, l'actualité de ce 5 avril était chargée puisqu'on célébrait l'anniversaire de Vanessa Demouy.
Non, mais non, ça va pas faire ça à chaque fois.
Ah mon Dieu, quand on pense que tout ça, c'est juste une journée ordinaire à France Inter.
Bravo Daniel, bravo.
France Inter. La bande originale.
On parle de corporate avec Nicolas Sciol et Céline Salette qui est en salle aujourd'hui. Y a-t-il des projets, Céline, dans les mois qui viennent?
Avec Vanessa
des tournages, des films en préparation. Qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Dans 15 jours va sortir un film qui s'appelle Cessez le feu. Un autre premier film d'Emmanuel Courcol avec Romain Duris et Grégory Gadebois. Principalement, c'est un film sur cet homme qui est joué par Romain, qui s'appelle Georges et qui revient de la guerre. Ça se passe en 14. Mm-hmm. C'est un film sur comment revenir. J'ai tourné aussi avec André Téchiné. André, je t'aime. et on a tourné avec Pierre Deladonchamp, un film qui va s'appeler Nos années folles et qui va sortir dans l'année. Et c'est l'histoire de Paul Grappe, Oh, 14 également, mais que se passe-t-il, que se passe-t-il tous ces films qui se font... Paul Grapp et Louise, sa femme, qui Paul Grapp se travestit en femme, mm-hmm. parce qu'il déserte, et pour se cacher, il va mener une vie de femme. Donc elles vont toutes les deux...
C'est un peu mauvais genre, quoi.
Ouais, donc... c'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est assez fascinant.
Comme Achille. Mm-hmm. Achille, pour échapper à son destin, il s'est déguisé en femme pour pas aller combattre devant la forteresse de Troie.
Une lopette, quoi.
D'accord, non, dis pas ça à Albert, c'est pas le maréchal qui parle, alors...
Et en même temps, il avait des talons, donc...
Voilà. Je suis là, toujours.
Et vous, Nicolas, donc là, c'est la sortie de votre premier long métrage.
Et il va falloir retourner en écriture.
Ah, voilà. Et il y a déjà des pistes, des idées, j'imagine.
Voilà.
Moi, je le harcèle pour qu'il m'écrive un autre rôle, du coup.
Ouais. Et alors, est-ce qu'on a déjà quelque chose qui se dessine ?
Je ne vais pas m'engager. Non, c'est en gestation.
En gestation ? Oui, mais c'est quoi ? Ça serait plutôt dans quel genre ?
Je vais rester, moi...
Dans la comédie, oui.
Voilà, comédie satirique, comédie familiale.
Vous avez déjà une petite piste, non, à nous donner ?
Non, pour le moment.
Toujours pas, et en termes de casting, Céline en sera ?
J'aimerais beaucoup retravailler avec Céline.
Et voilà, paf ! Voilà. Un rôle supplémentaire.
Encore cet accent.
C'est la première fois que j'ai une possession démoniaque d'un
belge. C'est vrai. Bon, maintenant, on est un
belge. C'est incroyable.
Il est temps de passer au brouillon de culture d'Albert Algou. Une culture culte. C'est vous, Albert.
Culture culte.
Alors, comme vous dites d'habitude, Leïla, je vous sors de la promo, un petit bol d'air, et c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à essayer. De mieux vous connaître, mais un tout petit peu, quoi. Voilà. Alors, on commence par un extrait sonore.
Mais pas trop, quoi. C'est ça, faut pas aller trop loin.
Voilà. Vous écrivez très mal, c'est pour ça qu'il y a du mal à vous lire.
On commence par un extrait sonore pour vous, Céline Salette.
Je ne crois pas qu'il faille baser tout uniquement sur le métier. Je ne crois pas qu'il faille ne penser qu'au meilleur rôle qu'on pourrait avoir. Je ne crois pas qu'il faut être affolé parce que. Il en arrive une autre qui est plus jeune, plus belle, qui risque d'être meilleure. Je parle d'une autre actrice. Je ne crois pas qu'il faille nager, comme disent certains, nager, remuer, battre l'eau pour absolument ne jamais s'arrêter, continuer, recommencer, répéter, penser à l'autre histoire. Je crois qu'il faut aussi prendre le temps de vivre.
Beauté.
Vous l'avez reconnu, c'est Simone Signoret en 1957 qui parlait du métier de comédienne. Alors Simone Signoret, c'est un personnage que vous deviez incarner dans un biopic.
Oui, ça va
sur
faire.
Yves Montand.
Ah. Ouais, mais c'est pas tout de suite parce que ça prend beaucoup de temps. C'est des œuvres qui sont complexes à mettre en place. À plein niveau, parce qu'il y a des enjeux, il y a un scénario, des enjeux politiques dans le film. Est-ce que ça intéresse, est-ce que ça intéresse pas ? Comme c'est un peu lourd à financer. Les gens se tâtent encore, et vous savez qu'ils peuvent parfois se tâter longtemps.
Mais j'en sais quelque chose.
Oui, hein.
Arrête.
Mais du coup, moi je suis persuadée que ça va se faire. C'est Jean-Louis Lévy, le producteur du film, qui par exemple avait mis 10 ans à produire Cyrano de Bergerac avec Depardieu. Aujourd'hui, c'est impensable que ce film n'ait pas existé. Je pense que ça fera pareil avec le film sur Montand.
Qu'est-ce que ça vous fait d'incarner?
Mais c'est sublime. Simone Signoret. Entendez cette voix ou pas?
Oui.
Sa façon de parler et tout. On a fait, moi j'ai reproduit 20 minutes d'interview qu'elle avait fait à l'image, et on a fait ça pour vendre un peu le casting, essayer de convaincre un peu les gens que oui, bon bah moi dans le rôle ça allait pas être pire, que mon camarade Thierry Neuvik dans le rôle de Montand ça pouvait être formidable. Et donc y a, pour l'instant il y a une demi-heure de petits films comme ça qui existent, qui est assez dément. J'aimerais bien que ça fasse circuler, moi.
Et en termes de voix, justement, comment vous l'avez abordé ?
De la même manière que l'accent belge. Tout à l'oreille.
Tout à l'oreille et la gitane.
Bon. Et il y a aussi, évidemment, la question de la ressemblance qui se pose pour un biopic, mais elle se pose comment, cette question ?
Moi, je ne me la pose pas, comment dire. Je pense que je ne suis pas la personne qui ressemble le plus à Simone Signoret.
Quelque chose, quand même.
Ouais. Les yeux.
Oui, les yeux.
Les pieds aussi.
Les pieds, ouais.
les pieds de Simone.
Et l'odeur.
Aujourd'hui.
Non, je ne me pose pas cette question. Mais je pense que. Enfin, en tout cas, ça sera très beau.
Nicolas Sciol, à propos de financement, puisqu'on vient d'en parler à l'instant, du financement du biopic d'Yves Montand, vous pouvez nous parler de Movies Angels, qui est une plateforme de financement participatif, alors on va dire crowdfunding, pour faire très bien, qui a participé au montage de votre film, Corporate.
Oui, alors ils ont participé, mais on n'est pas allé au bout. On n'a pas tenu nos objectifs, donc finalement on n'a pas pu
récolter l'argent.
Merde.
Il y en a eu un petit peu ou pas du tout?
Il y avait eu des promesses, des engagements, vous savez que dans ces campagnes de crowdfunding, ils ont fixé des objectifs et si on n'atteint pas la somme, on a tout perdu.
On va écouter pour vous un son particulier.
Ça, c'est Daniel au réveil.
I didn't have much parental guidance.
Baby, you better run me back to the hotel. You got me hotter than Georgia asphalt.
C'est un extrait de la bande-annonce de Sailor et Lula, un film que vous aviez vu jeune.
Oui, c'est mon premier film. On m'a posé la question de mon premier film. C'était le premier film interdit aux moins de 12 ans que j'ai vu.
Et ça devait être le jour. Pas le premier film que vous ayez vu, mais
non.
Interdit aux moins de
12
ans.
Voilà, c'était le jour de mes 12 ans, je pense. Ah ouais. J'ai été assez impressionné par l'ouverture du film où ça se passe dans les escaliers. Il fracasse la tête d'un. Je ne sais plus pour quelle raison. Mais je sais que voilà, c'est mon premier souvenir fort.
Ça commençait bien alors.
Voilà, ça commençait bien.
Qu'est-ce qui vous inspire, oui, en termes de cinéma? Quelles sont vos références?
Mes références, c'est les polars sociaux américains des années 70.
Sidney Lumet.
Sidney Lumet, vraiment tout premier plan.
Par exemple, comme film de Sidney Lumet.
Serpico, Princess of the City et tous les films de Lumet.
Un
après-midi de chien.
Extraordinaire, hein, l'histoire d'un braquage qui tombe court.
Il a fait des films très très différents. Ça commence Sidney Lumet avec 12 hommes en colère, donc et ça finit il y a quelques années son dernier film 7h58 ce samedi matin. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Qui est un film démentiel qui fait à 80 ans passés avec Seymour Hoffman et qui donc vraiment c'est une carrière incroyable. Je pense qu'il a pas encore vraiment la place qu'il devrait avoir.
Il a une filmographie extraordinaire.
Ouais. Il faut forcément une dimension sociale. J'ai la sensation que c'est quelque chose qui vous.
Oui, j'ai besoin de cet ancrage-là. Ouais, absolument, parce que j'ai besoin de sentir que c'est important pour moi et puis après qu'on puisse en parler, échanger autour, de créer un espace de voilà d'interpellation et de débat autour. Autour des films.
Et le genre peut varier, c'est-à-dire s'il y a un fond social, ça peut être une comédie, ça peut être...
Pourquoi pas, ouais, on a vu que c'était inspirant aussi, que ça pouvait être traité de manière un peu trash.
Bon, j'ai des cadeaux. J'ai des cadeaux, comme
vous
prenez très très bien l'accent belge, oui. Céline Salette. Alors, pour supporter les temps assommants qu'on traverse parfois, y compris les temps où on est harcelé, c'est 106 conseils que donne Bruno Coppens. Bruno Coppens qui est belge, c'est un de nos collègues, il sévit sur Première en Belgique, il a sévi à France Inter aussi. 106 façons simples de supporter ces temps assommants. Alors, par exemple, fabriquez votre cercueil végétal, remplacez votre chien par un 4x4, faites publier votre faire-part de décès, braquez une banque du sperme, etc.
J'adore.
C'est très, très drôle, Bruno Coppens, et c'est les éditions Castor Merci. Astral. Alors, pour Nicolas...
J'aimerais bien savoir le jour où elle va se dire, tiens, je vais braquer une banque du sperme.
Non, mais il y a des conseils très utiles, et les textes sont très drôles. C'est un très, très bon auteur. Alors, pour vous, Nicolas, c'est une BD. Ces gens-là, c'est chez Dargaud, Terreur Graphique, j'adore le nom de cet auteur.
Ouais,
c'est une sélection des planches et des strips qu'il a publiées sur son blog et dans l'IB. Ce sont des tranches de vie ou de survie au vitriol. Et alors, ce Terreur Graphique, il a, comment dire, au superlatif, le sens du grotesque. Et il sait, comment dire, amalgamer la drôlerie à la satire, la férocité à la virulence. C'est vraiment un auteur formidable, plein de promesses. Ça fait penser à Lozier, aussi à Claire Bretéché. Et... Dernière chose, c'est pour vous, Leïla.
Oh,
dans les années 20-40, il y avait les suffragettes, les garçonnes. Et alors, bizarrement...
bizarrement.
Non, mais il y avait, contre ce courant féministe qui était effectivement tout à fait estimable, d'étranges adversaires qui étaient des femmes anti-femmes et anti-féministes. Et il y a une anthologie qui sort, c'est Femmes anti-femmes, aux sources inattendues du genre, de Bertrand Matos. C'est une anthologie, l'éditeur c'est Le Mieux. Alors, c'est extraordinaire parce que, quand on les lit aujourd'hui, on s'aperçoit que les argumentations antiféministes n'ont pas sont toujours là.
Ouais.
Et il y a des gens qui répliquaient à ces femmes. Et donc, c'est une confrontation de textes, j'allais dire, antiféministes et féministes. Ces femmes antifemmes, c'est vraiment très intéressant.
Super
Le
titre.
Mieux éditeur.
C'est bien, il faut connaître l'ennemi de l'intérieur.
Voilà, il faut connaître l'ennemi de l'intérieur.
Il faut connaître son argumentation.
Moi, j'ai une question féministe. Vous aviez plus de budget, vous aviez 26% de budget en plus pour le livre de Nicolas.
C'est ça.
Qui est plus beau, il est vachement plus beau.
Je vous le ferai envoyer.
Merci.
On va se rattraper. On écoute Mesparo, Ne me change pas.
Ne me change pas. Laisse-moi chanter. On ne transforme pas l'acier en étain. J'en ai poursuivi des chimères, courbé plus de 100 fois les chines, bâti dans un bois qui ne plie pas. L'écorce du chêne tient chaîne tient, les corps de chaîne tient, puis soudain la pluie. Soudain, puis soudain, crac, crac. Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi chanter, laisse-moi chanter. On ne transforme pas, on ne transforme pas. L'acier en éteint, l'acier en éteint. Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver. On ne troque pas, on ne troque pas. L'assiette pour le gain, l'assiette pour le gain. J'en ai cru des merles noires, entendu ces mouettes au large. Petit moineau, ne crains pas l'eau. Rage, petit oiseau, petit oiseau. Petit oiseau, aurais-je plus mal?
Ne me change pas,
ne me change pas, ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas.
La bande originale sur France Inter avec nos invités Céline Salette et Nicolas Sciol pour Corporate qui est en salle dès aujourd'hui, que vous pouvez voir dès ce soir, dès cet après-midi, quand vous voulez.
Dès maintenant, là, arrêtez
tout. Dès maintenant, arrêtez tout, partez, allez-y. Partez.
D'ailleurs,
ça
vous
suffit.
Ne vous écoutez pas, vous êtes
enfin, attendez quand même juste les désolés de Daniel Morin, ce serait dommage de les louper.
Ah,
à toi, mon
ça,
Daniel.
Ça serait dommage, oui, bien sûr. Désolé déjà pour Albert Algou. On a eu Lambert Wilson au téléphone, oui, à la pause, il nous a annoncé qu'il allait monter Corporate en comédie musicale avec Christophe Maé. Figure-toi qu'il a un petit rôle pour toi, celui du suicidé. Alors, désolé pour Nicolas Demorand, Patrick Cohen, Kathleen Evin et tous les autres drogués de France Inter qui se sont précipités dans le studio pour savoir quelle drogue Céline Salette prenait. Eh ben non, désolé les gars, elle ne se drogue pas. Elle est comédienne et c'est tout. Désolé pour tous les prêtres qui regrettent de ne pas avoir été invités aujourd'hui avec un tel phénomène à exorciser, Céline Salette. Doucement les gars, doucement. Venez plutôt demain, il y aura Michael Gregorio et là, croyez-moi, il y a du dossier.
Ouais. Merci beaucoup, merci Daniel, merci Céline Salette,
merci, à vous.
Merci Nicolas Sciol pour votre première venue. On vous dit un gros merde pour le film aujourd'hui. Demain, c'est Michael Gregorio et c'est toi Tom Villa qui sera aux commandes. Nagui toujours en vacances et tout de suite,
ça.
C'est Philippe Bertrand avec ses fameux carnets de campagne.